Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Léonidas Kalogiropoulos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique et délégué général de l'Open Internet Project et vous avez fondé Les Entrepreneurs pour la République. C'est une place de marché Internet où il y a des solutions d'entreprise face aux enjeux du pays et aux besoins des collectivités.
Et même pour baisser la consommation énergétique, ça sera dans les sujets.
Ah bon, vous avez déjà des...
Bien sûr.
Il y a déjà des solutions.
Ben écoutez, dès qu'on évoque le sujet,
On se demandait ce matin avec Jean-Marc Daniel si on n'allait pas faire comme par le passé, supprimer les grands prix automobiles par exemple.
Non mais, alors peut-être, mais bon, écoutez, j'ai une solution qui est extraordinaire. Si vous voulez que je l'évoque maintenant,
je fais le tour de table et vous m'en dites un mot.
Avec joie.
Philippe Martin, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Professeur à Sciences Po et président du Conseil d'analyse économique, également membre du Cercle des économistes. Xavier Rago, bonjour.
Bonjour.
Président de l'OFCE, vous avez publié « Civiliser le capitalisme » chez Fayard. Bon, je vous donne les dernières infos. Alors oui, on va évoquer tout à l'heure. Gardez en tête l'histoire, Léonidas. Voilà, bouclier loyer. Hein. Pas de gel de loyer, mais un bouclier, une hausse limitée à 3,5%. Les APL, plus 3,5% avec 3 mois d'avance. 4% de hausse des pensions de retraite, du minimum vieillesse, du RSA, de la prime d'activité, de l'allocation adulte handicapé, des allocations familiales. Également, même combat pour les indemnités liées aux accidents du travail, pour la complémentaire santé solidaire, pour les minima versés par Pôle emploi, pour le contrat engagement jeune, des incitations pour plus de participation d'intéressement dans les entreprises et une pression forte sur les branches professionnelles pour qu'elles se mettent en conformité avec des minima sociaux qui soient alignés sur le salaire minimum. Qu'est-ce qui nous manque ? Le montant du chèque inflation, la structure du chèque carburant et puis le niveau de dégel du point d'indice des fonctionnaires. Sinon, bouclier tarifaire maintenu, barème de l'impôt sur le revenu revalorisé au niveau des prix, prime Macron triplée, suppression de la redevance télé confirmée et les 18 centimes de ristourne par litre de carburant, confirmé jusqu'à la fin août et qui s'éteindront ensuite en sifflet jusqu'à fin décembre.
Je voudrais juste savoir.
Je ne vous lance même pas sur un angle ou une question.
À quoi sert d'avoir des NAO, des discussions entre le patronat, les syndicats, par entreprise, par branche, puisque on attend l'État. Et puis quand l'État va donner son indice sur la totalité de tous les minima et la totalité des postes que vous venez d'énoncer comme un inventaire à la Prévert, il aura calé le niveau minimal des négociations acceptables. Et ça viendra se surajouter à tous ces chèques. Il y a un moment donné où...
Quand même, Léonidas, c'est plutôt rendre service au patronat que de limiter l'inflation lors de ces futures négociations. Parce que s'il n'y avait pas toutes ces mesures, on ne serait pas à 5,2 d'inflation, mais on serait au-delà de 7. Hein. Et là, ce serait une pression supplémentaire pour les entreprises par rapport aux attentes salariales.
Écoutez, je ne suis pas totalement certain que toutes les entreprises qui vont ouvrir des négociations seront en mesure d'avoir des hausses de 4%, qui est à peu près l'étiage sur lequel s'est calé désormais le débat. 4% pour des augmentations, avec en ligne de mire que l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés qui sont en poste va finir par devenir un frein à l'arrivée de nouveaux salariés dans l'entreprise. C'est-à-dire que distribuer du pouvoir d'achat, c'est aussi embaucher. Et lorsque l'équation qui nous est annoncée par le président de la République sur l'ensemble de ces nouvelles dépenses est contrainte en disant il n'y aura ni impôts supplémentaires ni dettes supplémentaires, ce qui est très sain, la seule manière de financer tout cela, c'est d'avoir de la croissance. C'est continuer à avoir de la croissance. C'est la seule manière. Donc pour continuer à avoir de la croissance, il faut aller vers le plein emploi. Et aller vers le plein emploi, c'est éviter qu'on fasse une barrière à l'entrée des nouvelles embauches en augmentant. Donc on est vraiment dans un moment où, effectivement, il ne faut pas se tromper. Or, je trouve que les effets d'annonce que nous avons anticipent très largement la réflexion qui serait nécessaire.
Bon, Xavier Rago, est-ce qu'on est en train de se tromper ?
On est au cœur d'un sujet extrêmement difficile, qui est la gestion de ce choc sur les prix des matières premières et le prix de l'énergie, auquel la France fait face et qui grève notre balance commerciale. Qui va payer ? Comment on fait ? Là, le choix qui a été fait par le gouvernement, en grande partie, c'est au moins d'utiliser la dette publique. dans plein de leviers, en essayant d'être fin. Alors ça donne une impression d'une liste à Prévert. C'est pas tout à fait ça. C'est essayer d'être précis sur toutes les niches pour jouer sur le loyer, jouer sur les carburants, jouer sur plein de choses, jouer sur les biens alimentaires pour essayer de limiter, certes, le coût fiscal. Donc ça, à chaque fois qu'on essaie de limiter, on est un peu précis dans les détails. Ça rend une impression de complexité. Mais la logique globale, c'est d'utiliser la dette publique pour réduire la dynamique des prix, de l'inflation et stabiliser le pouvoir d'achat.
Ça, c'est très clair. Il n'y a pas de doute.
Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Est-ce qu'il faut faire beaucoup ou peu ? Là, on verra l'ordre de grandeur, parce que tout n'est pas encore précisé. On verra le débat parlementaire, c'est qu'un projet de loi.
Donc, je peux vous dire ce que les autres vont vouloir rajouter. Voilà, on voit. SMIC à 1500, la TVA à 5,5 sur les carburants, ce genre de choses.
Pour ma part, je pense que si, et c'est un gros si, parce que c'est ça l'inquiétude que je pense beaucoup de personnes, si jamais ces mesures sont effectivement temporaires, si on arrive à avoir une gestion temporaire, on peut limiter les pressions inflationnistes par une hausse temporaire modeste de la dette de 0,3 points de PIB. 7 milliards, c'est 0,3 points de PIB. Par rapport aux grandes masses qu'on a eues, c'est encore de la dette, certes, mais c'est absorbable, parce que la dynamique de la croissance en 2023, spontanée, sans hausse des taux, va compenser ce coût budgétaire aujourd'hui. La question cruciale, c'est une question plus, je dirais pour ma part, plus politique qu'économique, c'est que ces mesures-là, il faut que les Français acceptent de comprendre que c'est un soutien temporaire pour absorber ce choc.
Après,
forcément, malheureusement, face à des prix comme cela, on est tous plus pauvres. Il n'y a rien à faire, on ne produit pas du pétrole, on ne produit pas du gaz. On est tous plus pauvres, donc il faudra que les pouvoirs d'achat baissent. Et on prévoit, nous, 0,8 plutôt que 1. Bon, c'est dans le trait de plume encore, ces différences. Mais forcément, la France sera plus pauvre. Il faut une répartition juste pour préserver l'emploi pour les Français et la croissance pour les entreprises.
En tout cas, la baisse des impôts de production, la petite musique selon laquelle elle existera, mais peut-être étalée dans le temps, ça commence à s'installer, ça aussi. Philippe Martin, votre réaction par rapport à cette réponse politique à l'inflation, au choc de pouvoir d'achat, et puis quand même, la cote d'alerte. Moi, j'aimerais bien que vous me disiez comment vous comprenez le terme cote d'alerte. Mais allez-y.
Le gouvernement est sur une ligne de crête avec, en effet, pas mal de contraintes. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas être trop négatif sur ce que fait le gouvernement. Alors, en effet, Xavier Rago l'a répété. En gros, c'est un choc qui fait qu'on paye au reste du monde 2 points de pourcentage de notre revenu. Donc la question, c'est qui paye. Donc on pourrait dire, ça doit être entièrement les salariés et les ménages. En gros, ce qui se passe, c'est que c'est moitié-moitié. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que le gouvernement dit, j'en prends à peu près, je sais pas, on n'a pas encore fait tous les calculs. Je sais pas si l'OFCE.
On n'a pas de chiffrage pour l'instant.
Mais ça va être à peu près moitié-moitié. C'est-à-dire que il va y avoir une perte de pouvoir d'achat en gros de 1%. Donc vous voyez que ça signifie que l'autre partie, ça va être justement toutes ces mesures qui vont réduire la perte de pouvoir d'achat. Ce qui veut dire d'ailleurs que le salaire réel va baisser quand même. Le salaire réel va baisser.
Bah oui.
Donc on ne peut pas dire que, de ce point de vue, les entreprises vont tout payer. C'est pas vrai. Alors, les marges, sont en train de baisser, mais elles reviennent vers des niveaux, en gros, d'avant-crise, c'est-à-dire des niveaux relativement élevés. Donc voilà, la question, c'est en effet comment partager entre l'État, les ménages et les entreprises. Et à l'intérieur des ménages. Ce qui est vrai, c'est que je pense qu'il faut des mesures plus ciblées, et c'est pour ça que je suis plutôt favorable, en effet, à ce que les minima sociaux soient relevés, que ce soit retraite, salaire minimum, RSA, etc., parce que je pense que quand même, ce sont sur ces personnes que pèse le plus l'inflation. Puis après, il va y avoir des mesures très ciblées à l'intérieur des ménages. La difficulté, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, il y a des personnes pour lesquelles, en effet, prendre la voiture... c'est indispensable.
L'INSEE a fait d'ailleurs le distinguo entre les ruraux et les urbains.
C'est la première fois qu'on a des écarts de taux d'inflation entre ménages aussi importants, et on le comprend très bien, parce qu'en gros, ça dépend si vous avez une voiture ou pas, si vous vous chauffez au fioul, etc.
On comprend très bien ça, mais ce que disait Xavier, c'est que si c'est... qui s'installe dans le temps...
C'est très juste la question du temps pour faire...
ou une baisse sur les plus généralement sur...
finir la surproduction énergétique.
Il faut que les mesures qui sont prises, en effet, ne deviennent pas des mesures permanentes.
Comment vous comprenez code d'alerte ? Bruno Le Maire, ce matin, sur BFM TV, parle de code d'alerte pour les finances publiques. Alors, code d'alerte pour les finances publiques, vous comprenez ça comment ? En pourcentage de dette par rapport au PIB ? En niveau d'emprunt pour le taux à 10 ans de la France ?
Le niveau d'emprunt, il est...
Enfin, le taux d'emprunt, le taux à 10 ans, quoi.
Non, mais le niveau d'endettement est à un niveau que jamais personne n'aurait imaginé.
Oui, mais je vais vous dire que les Japonais sont à 250...
Mais les taux sont en train de remonter, c'est-à-dire que l'épée de Damoclès qui est sur la tête de notre pays est vraiment dangereux. Il me semble que heureusement que le ministre de l'économie et des finances est dans son rôle.
Quand il y a une cote d'alerte, c'est qu'il y avait un avant où il n'y avait pas d'alerte, où il y a une alerte.
Oui, parce que...
Et généralement, c'est lié au niveau des taux.
En somme, il dit le quoi qu'il en coûte, quel que soit le sujet, est désormais une séquence qui est définitivement derrière nous.
Allez-y, Xavier Rago.
Moi, ma lecture de la cote d'alerte, c'est la chose suivante. Et votre référence au Japon est pertinente, mais à moitié. Alors, la dette publique, moi, je suis loin d'en avoir peur. Hein. Mais je pense qu'il y a des moments où il faut dire qu'il faut envisager de réduire la dette publique. Et il faut commencer à y réfléchir, pas pour 2022, mais réfléchir collectivement pour 2023-2024, de placer nos structures de finances publiques vers une stabilisation, au moins une réduction douce de cette dette publique. Pourquoi ? Vous avez cité le Japon. Le Japon a 178. Ça, c'est compliqué, la mesure de la dette publique japonaise.
Moi, j'avais 250%.
Oui, mais il y a des doubles comptes. Oui, c'est pas la dette maastrichtienne. Bah, c'est à peu près un peu moins de 200. C'est un détail.
En dette maastrichtienne, on va dire qu'ils sont en dessous de 200.
D'accord. Voilà, ils ont beaucoup de dettes. Le problème, je vais vous dire, pour moi, me semble-t-il, c'est la chose suivante. C'est comment être dans une même union monétaire avec un pays qui a 60% de dette publique qui s'appelle l'Allemagne et un pays qui a 150% qui s'appelle l'Italie et la France qui a autour de 116 aujourd'hui. Il y a un consensus au Japon pour faire avoir des taux bas, pour stabiliser les finances publiques, parce que c'est tout le pays qui est unifié. En une zone euro, avec une hétérogénéité d'aide publique, il y a une incertitude dont on parlait ce matin, additionnelle, sur l'orientation de la politique économique de la Banque centrale. Et donc peut-être que les taux vont augmenter un peu plus que ce qu'il faudrait pour la France et l'Italie, un peu moins que ce que voudraient les Allemands pour trouver un compromis, mais pour nous, on va quand même subir possiblement une hausse des taux qui va impacter...
Donc la cote d'alerte, c'est les hausses des taux.
Notre cause d'alerte, c'est la hausse des taux et le possible désaccord dans le Conseil du gouverneur de la Banque centrale sur l'orientation de la politique monétaire. Donc c'est cette incertitude de politique économique qui je pense, structure les débats français.
Mais je voudrais revenir sur un point qui est le point de l'équation. Où est-ce qu'on trouve l'argent ? Finalement,
on emprunte aujourd'hui, Léonidas. On emprunte et on va probablement étaler certaines baisses d'impôts qui étaient promises. Moi, j'en prends le pari.
Non, mais pardon, Nicolas, mais la question du financement et de la remise en ordre de nos comptes publics repose sur ce que nous avons expérimenté durant un an et qui, Dieu merci, est un peu une évidence pour tous les chefs d'entreprise, mais qui semble avoir été une découverte, c'est que quand on a de la croissance importante, il y a beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses de l'État et la croissance, c'est le meilleur remède à tous nos maux. La croissance est le meilleur remède à tous nos maux. Et donc, pour arriver à avoir de la croissance, il faut véritablement favoriser les entreprises qui vont investir,
donc
qui vont embaucher.
Politique de l'offre, d'accord.
Il faut une politique de l'offre. Et pour arriver à répondre à la levée des obstacles qui pèsent sur notre dynamisme et notre compétitivité, c'est vrai que les impôts de production sont un élément absolument identifié, documenté et ciblé sur lequel il ne faut pas renoncer. Et l'idée que ce n'est pas le moment et il faut de remettre ça à plus tard, me semble être une idée qui est contradictoire avec l'équation qui a été posée. Si on veut avoir de l'argent à dépenser pour tout ce que l'on a à faire sans lever de l'impôt et sans créer de la dette, il faut de la croissance et donc il faut libérer davantage d'offres qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Pour l'instant, c'est une petite musique qui circule. Il n'y a pas de décision et d'annonce sur le fait que ces baisses d'impôts de production ne se feraient pas en une année comme prévu, mais étalées sur 2, 3, 4 ans. La cote d'alerte, Philippe Martin, comment vous l'entendez ? Parce que quand je regarde le 10 ans français, on est passé sous les 2%, on est monté jusqu'à 2,3. Donc j'ai envie de dire que concrètement, par rapport aux ans précédents, il ne s'est pas passé un événement incroyable.
Non, mais je pense que d'abord, Bruno Le Maire est dans son rôle
de
ministre des Finances de dire « faisons attention ». Et là encore, c'est toute la différence entre des dépenses publiques qui sont temporaires pour absorber un choc et des dépenses publiques permanentes. Après, ce qu'il va falloir regarder, ce qu'on sait, c'est que pour la dynamique de la dette et la soutenabilité de la dette, hein, ce qui compte, c'est la différence entre le taux de croissance et le taux d'intérêt. Donc actuellement, c'est un peu difficile de voir où on en est là-dessus, mais à terme, le taux de croissance nominal et le taux de croissance nominal aussi. Hein. Donc si l'inflation revient à 2% et qu'on est à un taux de croissance de 1,5, 1,7...
ça nous met à 3,5 en croissance nominale.
Voilà, donc il ne faut pas que les taux d'intérêt soient au-dessus de 3,5 en nominal. Et si c'est le cas, alors on peut avoir même un déficit primaire, c'est-à-dire hors paiement des intérêts, et la dette se stabilise. Donc je pense qu'il faut faire attention, il faut être très rigoureux, mais en même temps, je ne crois pas que ça ne signifie pas qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'explosion de la dette ou de dette non soutenable.
Je suis d'accord, mais le code d'alerte, c'est le moment où le taux d'intérêt dépasserait, le taux d'intérêt nominal dépasserait la croissance nominale.
Et ça n'est pas le cas.
Non, ça n'est pas le cas.
Oui. Donc la question, c'est, encore une fois, la question essentielle, c'est la soutenabilité de la dette et c'est les paiements d'intérêt. Donc je pense qu'il faut absolument, en effet, stabiliser les dépenses, il faut réduire le déficit, de toute façon.
Oui, parce que c'est les deux, quand même. Et le déficit et la dette.
Bien sûr, mais vraiment, ce qui compte à la fin pour que la dette soit soutenable, c'est cette différence entre le taux d'intérêt et le taux de croissance.
Ben, mais ça va ressusciter l'urgence de réformer les retraites, ou en tout cas dans le débat politique. Il y a de grandes chances. Il n'y a pas de chiffrage, hein, pour l'instant, de ce qui nous est présenté. On sait qu'en année pleine, l'ensemble des prestations sociales, y compris retraites, ce qui va se passer, c'est à peu près plus 17 milliards. Et après, vous ajoutez toutes les autres mesures sur chèque inflation, sur le bouclier, sur le chèque carburant, le point d'indice des fonctionnaires, c'est pareil. 1% de hausse du point d'indice, c'est quasiment invisible par agent, mais c'est 2 milliards d'un coup.
Oui, mais rappelez-vous qu'une partie de l'inflation fait aussi des recettes pour l'État.
Oui.
Donc, on tend à oublier qu'une partie de l'inflation, pas toute, et en particulier pas celle qui est importée du fait de l'augmentation des prix du pétrole, fait diminuer le niveau de dette en pourcentage du PIB.
On est d'accord.
Pas complète. Alors, c'est pas comme c'est de l'inflation généralisée.
C'est plus puissant quand c'est de l'inflation vraiment spirale interne.
Enfin, quand c'est de l'inflation qui n'est pas importée, ça a un impact qui réduit la dette publique. Comme on l'a vu d'ailleurs en sortie de guerre.
Ah mais on est tous d'accord là-dessus.
Mais là, c'est la mauvaise nouvelle entre guillemets, c'est que c'est de l'inflation importée et donc c'est un peu différent.
7% d'inflation en septembre, ça vous paraît possible, ça, Xavier Rago? Même si c'est très difficile de faire de la prévision aujourd'hui, c'est ce que nous dit vendredi l'INSEE dans une note bizarrement parue en cœur de journée à un moment un peu inattendu. Comme si on n'avait pas voulu qu'elle fasse trop de bruit, quoi. Ça, c'est une espèce d'impression que j'ai.
Il faut qu'on voit attentivement la façon dont on inclut l'évolution des prix et des prestations éventuellement dont on parle qui va influencer l'inflation mensuelle. Parce que si l'inflation mensuelle, c'est un élément. Si l'inflation sur la moyenne de 2022, nous, on est bien moindre encore, on se parle. On va voir l'évaluation de la loi pouvoir d'achat, si jamais elle est votée, ce qui est quand même probable. Il y a quand même un petit sujet là-dessus de la coalition politique qui va probablement financer le contenu. Mais ça paraît un peu élevé. Mais on va voir.
Mais l'INSEE, 17%. Mais en effet, au mois de septembre, sur un an, sur 2022, c'est 5,5.
C'est 5,5 sur 2022.
On est très proche de l'OFCE.
D'accord.
On va marquer une pause. Bon, j'ai cette question sur l'évolution de l'emploi là, après les chiffres, la publication des chiffres du travail intérimaire du premier trimestre. Mais surtout, parler de la consommation d'énergie.
Oui.
Et donc, il y a cette...
Parce que pour le moment, quand on subventionne la hausse des taux, la hausse des prix, c'est que quelque part, on subventionne le gaz et le pétrole que nous apportons. Et ça ne semble pas être totalement la priorité que j'entends depuis 3 ans sur le climat et sur nos objectifs énergétiques.
Et Jean-Marc Daniel, elle est même plus loin que vous ce matin. Il disait, c'est bien d'aller subventionner les prix de l'énergie. Donc, au moment où les choses sont compliquées pour nous et où on veut passer d'un monde à un autre, on vient enrichir les caisses de l'Arabie Saoudite.
De l'Arabie Saoudite. Et de la Russie, c'était pas forcément l'objectif premier.
On marque une pause, donc on va évoquer cet appel assez inédit, totalement inédit d'ailleurs, de Catherine MacGregor, Jean-Bernard Lévy et Patrick Pouyanné pour une vraie chasse au gaspillage de manière immédiate et urgente.
Eh bien, il y aura des solutions.